Donc, je vous ai ramené un petit texte avec les notions préliminaires avant d'aborder les enseignements. Et comme je ne sais pas encore de quoi je vais parler ce soir, bah, on va y aller progressivement, puis je verrai. Donc, on va commencer par la précieuse condition humaine, qui c'est la première page, c'est la première idée, et puis on va parler de ça un peu. Donc, je vous lis le texte. J'ai obtenu une existence humaine. C'est une chance inouïe pour donner sens à ma vie. Conscient de cette précieuse condition, je goûte le prix de chaque instant. Sachant que tous les êtres souhaitent le bonheur, chaque rencontre est digne de considération. Sachant ma mort certaine, l'aspiration est d'autant plus noble. Aussi, je me consacre désormais et dans toutes mes vies futures au service de l'éveil et d'autrui. Donc c'est un texte très court et qui parle de la notion de précieuse condition humaine qui est abordée dans toutes les écoles du bouddhisme pour nous permettre de comprendre que le fait d'être né humain, c'est quelque chose qui est extrêmement privilégié. Dans le Dharma, donc dans l'enseignement de Bouddha, on va considérer que le fait de que la précieuse existence humaine, l'existence humaine, c'est pas le fait d'être né humain, c'est pas seulement le fait d'être né humain. C'est-à-dire tous les êtres humains n'ont pas la précieuse existence humaine. C'est le fait d'être né humain et en plus d'avoir des certaines conditions intérieures et extérieures qui font qu'on peut donner tout son sens à cette existence. On a les moyens, la liberté, les conditions pour donner tout son sens à cette existence, c'est-à-dire du point de vue du dharma, bah, la libération. Dans une voie de libération, le but c'est de se libérer totalement de la souffrance, de réaliser l'éveil, c'est-à-dire de vraiment réaliser pleinement ce que nous sommes et ce que sont les phénomènes. Et dans le dharma, bah, on considère que quand on a ces conditions-là, c'est hyper privilégié. Mais c'est tellement privilégié qu'on ne se rend même pas compte à quel point c'est très rare de bénéficier de ce genre de conditionnement. Et parce que dans le Dharma, on considère qu'il y a plein de modes d'existence. Quand on parle de mode d'existence, on parle de conditionnement. Par exemple, on va parler de l'existence humaine, et puis on va parler aussi de d'autres mondes d'existence. Quand on parle d'autres mondes d'existence, ce n'est pas des planètes à part, c'est des conditionnements d'esprit qui font que on fait, même si on vit dans le même monde, et ben on a une perception de ce monde qui est extrêmement différente. Même déjà entre les humains, on perçoit le monde très différemment. Mais on a des conditions qui sont tellement proches qu'on arrive parfois à se comprendre, voilà, à dialoguer, à comprendre, à utiliser les concepts, etc. Mais dès qu'on passe dans le monde animal, là on passe. Les conditions sont tellement différentes que déjà au niveau de la communication, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis dans le monde animal, il y a plein aussi, il y a plein de modes de perception très très différents selon les animaux, entre le monde des insectes, le monde des mammifères, etc. Et puis en plus, dans le Dharma, on considère qu'il y a d'autres modes d'existence dont les conditionnements sont tellement différents des nôtres qu'on ne les perçoit pas. Mais ce qui est important, en fait, c'est pour nous, c'est de comprendre quels sont les conditionnements qui vont nous permettre de cheminer vers la libération et quels sont les conditionnements qui nous en empêchent. Du point de vue dharma, par exemple, les animaux, c'est un monde dans lequel on ne peut pas, on n'a pas les conditions nécessaires pour se libérer totalement de la souffrance et parvenir à l'éveil ultime. Il n'y a pas ces conditions-là. Nous, quand on parle de conditions favorables, ben, le fait d'être né humain, il y a ça, mais il y a le fait d'avoir, par exemple, des facultés intellectuelles qui nous permettent de comprendre. Ah oui, forcément, si on est dans une forme de... mais même n'importe quel développement personnel, si on veut travailler sur soi, si on veut progresser, comprendre qu'est-ce qui est bon, véritablement bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui nous apporte un bonheur durable, qu'est-ce qui ne l'apporte pas, bah, quelque part, il faut avoir certaines facultés intellectuelles qui nous permettent de réfléchir, d'analyser, etc. Et puis, il n'y a pas seulement ça. Il y a le fait de ne pas avoir à se préoccuper de chercher non-stop comment se nourrir. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants, etc. Ça, déjà, si c'est réglé, c'est un gros morceau. C'est-à-dire, on va avoir le loisir de faire autre chose. Si on sait qu'on va dormir dans une chambre chauffée, etc., ça aussi, c'est un gros morceau. Tous les êtres humains n'ont pas ça. Les êtres humains, c'est la seule préoccupation. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et donc, du coup, ça va nous laisser de la place pour se consacrer à autre chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui est véritablement source de bonheur? Qu'est-ce qui peut véritablement nous apporter le bonheur? Et qu'est-ce qu'il faut adopter et qu'est-ce qu'il faut rejeter? Qu'est-ce qui, au contraire, va être une source de souffrance? Et bien distinguer les deux, parce que pour beaucoup de gens, en fait, on cherche le bonheur, mais comme on en a une idée erronée, comme on ne voit pas les choses clairement, et ben, tout ce que ça va nous permettre de récolter, c'est de la souffrance, des problèmes, parce qu'on ne cherche pas le bonheur dans la bonne direction. Alors, j'en ai déjà parlé, mais je remets ça sur le tapis. Et puis, dans d'autres mondes, en fait, ces conditions-là ne sont pas présentes. Et notamment, on va méditer sur le monde animal. Dans le Dharma, on a proposé des méditations pour nous permettre de comprendre que le monde animal, même si parfois on peut voir le chat qui passe sa journée à glander sur le canapé, en se disant, ouais, c'est sympa d'être un chat, enfin franchement, on ne demande que ça, mais en fait, de comprendre que la vie d'un chat, si on y regarde profondément, ce n'est pas une vie enviable. Il passe sa journée à faire des allers-retours entre la gamelle et puis le canapé. Puis quand il ne sait pas quoi faire, il s'ennuie. Mais en tout cas, l'existence de chat, il n'y a pas moyen de diriger son existence vers autre chose. Il n'y a pas le moyen de comprendre qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude pour se libérer. Et qu'est-ce qu'il faut rejeter comme attitude? En fait, le karma d'un chat fait que ça marche par instinct. Il n'y a aucune liberté dans son mode de fonctionnement. Quand je dis ça, ça va? Ou ça y est... Vous avez le droit de m'arrêter, de me dire je ne suis pas d'accord.
Bah, c'est c'est-à-dire
super.
qu'on n'est pas, on n'est pas dans le chat, on ne sait pas trop comment lui il perçoit tout ça, quoi.
Ouais, effectivement. Mais on voit qu'on peut finalement se baser que sur ce qu'on observe. Mais déjà, dans ce qu'on observe, on peut voir des choses. On peut voir des choses. Un chat, la vie d'un chat, il n'y a pas de gros changement de fonctionnement. C'est toujours un fonctionnement qui n'est pas... Il n'y a pas la liberté, il n'y a pas le... Forcément, il n'y a pas le fait. Ce qui est intéressant dans la vie humaine, par exemple, c'est que un humain, il peut savoir qu'est-ce qui est source de bonheur, les actions qui vont être profitables pour soi et pour les autres, et puis qu'est-ce qui va ne pas être profitable pour les autres. Salut Barbara.
Salut.
Merci pour la salle.
Avec plaisir.
Bonsoir. Et donc du coup, bah, il n'y a pas de liberté par rapport à ça. Par exemple, un chat, on dit hein, par exemple dans le Dharma que tuer, c'est un acte. Qui entraîne un karma négatif. Le fait de tuer, le fait d'ôter la vie, c'est un acte qui entraîne un karma négatif et donc du coup qui va être source. Quand on dit négatif, ça ne veut pas dire que c'est un acte qui sera pas, qui va pas nous permettre de nous rendre heureux. Qui va pas nous permettre de, à la fois de nous rendre heureux et d'être source de bénéfices pour les êtres.
Même s'il tue sa souris et qu'il se régale avec,
Ouais, si.
Je sais pas.
Mais à la limite, il pourrait manger ses croquettes. Je parle par exemple d'un chat domestique. Nous, on a un chat à la communauté. Même s'il est bien nourri, il va quand même aller tuer. Et puis, il ne va pas tuer pour se nourrir. Il va tuer par instinct. Et puis, ça va même aller plus loin, en fait. Quand on le voit jouer avec la souris, on pourrait même trouver ça cruel parce que la souris, elle agonise, puis continue à jouer avec des heures et des heures, alors que finalement, il va pas là. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de sens de l'éthique. Il n'y a pas le sens de l'éthique, c'est le pur instinct. Et cet instinct-là, en fait, il est poussé par les tendances, il est poussé par instinct, mais il n'y a aucune liberté par rapport à ça. Il ne va pas se dire, en fait, à quoi ça sert de tuer cette souris. Tout simplement. Beaucoup en vie, par exemple, on entend souvent, ouais, j'aimerais bien être un oiseau, ça doit être chouette d'être un oiseau. Et puis, quand on regarde, je ne sais pas si vous avez des maisons à oiseaux chez vous, mais amusez-vous à regarder le comportement des oiseaux qui viennent picorer les graines. Ils sont en mode vigilance tout le temps. C'est presque une vigilance paranoïaque, en fait. Ils vont chercher une graine, ils regardent à droite, à gauche, ils piquent une graine, ils s'en vont, ils reviennent. Ils sont sans arrêt aux aguets. Il n'y a aucune détente dans l'esprit. C'est-à-dire, c'est des choses qu'en tant qu'humain, on peut voir. Comme on peut voir, on n'a pas besoin forcément du langage pour voir que quelqu'un est heureux ou malheureux. Ça peut se voir rien qu'à sa démarche. Quelqu'un qui est malheureux, même de dos, parfois on peut voir que quelqu'un est malheureux. Si par exemple la personne, elle marche voûtée, traînante, etc. C'est très différent de quelqu'un qui marche avec assurance, le dos redressé, etc. C'est des choses qu'on voit. Sur les animaux, c'est pareil, on peut voir ce genre de comportement. Voir que chez les oiseaux, les petites mésanges qu'on trouve adorables, etc., c'est super chouette de voler, mais en fait, c'est une vigilance non-stop. Il n'y a pas un moment de détente. Et puis, c'est toute la journée. Il faut se nourrir. Ouais. Voilà, des choses comme ça. Je vais vous proposer une méditation, justement, qui nous met dans la peau d'une vache. Comment ?
Qui rumine.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est un maître tibétain qui s'appelle Mingyur Rinpoche, qui justement, par rapport à la précieuse existence humaine, pour nous faire sentir à quel point c'est fou la liberté qu'on a en tant qu'humain, qui nous propose une méditation où on se met dans la peau d'une vache, et puis dans diverses situations pour rendre ça un peu crédible, pour rendre ça vivant, quoi. Donc, je vous propose qu'on la fasse ensemble, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé assez parlante. Alors, la méditation guidée de la vache. Asseyez-vous dans une posture détendue, le dos droit. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés. Alors, tout d'abord, reposez-vous dans la conscience ouverte pendant une minute. Évoquer l'image de la vache. Reposez dans cette image. Si votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à l'image de la vache. Devenez la vache. Vous avez quatre pattes et une longue queue. Imaginez le bruit que fait une vache. et imaginez que vous mâchez de l'herbe. Utilisez à présent quatre aspects pour envisager cette vie de vache. D'abord le corps. À quoi ressemble le corps de cette vache? Imaginez ce que ça fait d'être réellement cette vache. Habitez cette vache, soyez précis. Ensuite, la durée de vie. Songez à la brève durée de vie des vaches. Appréciez la longueur de la vôtre et les possibilités d'éveil qu'elle recèle. Ensuite, les conditions de vie. Où cette vache passe-t-elle ses journées et ses nuits? Où mange-t-elle? Dans une étable sale ou en plein soleil, peut-être couverte de boue et de mouches? Ensuite, la souffrance. Comment vit la vache et à quoi sert-elle? L'élève-t-on pour son lait ou pour sa viande? Peut-être a-t-elle un anneau dans les naseaux, peut-être lui arrive-t-il d'être maltraitée ou de travailler dans les champs en plein soleil. Peut-être vit-elle dans une usine d'engraissage, tellement surpeuplée qu'elle ne peut pas bouger. Peut-être laboure-t-on de produits chimiques pour qu'elle grossisse plus vite et puisse être vendue plus rapidement. Éprouvez autant que possible tout cela dans votre corps, en utilisant ces sensations pour soutenir une conscience méditative. Reconnaissez à quel point votre vie serait limitée si vous étiez une vache. Il vous serait impossible de choisir votre propre voie dans la vie, et plus encore d'extirper les causes de votre souffrance. À présent, contemplez et appréciez la chance que vous avez d'être né humain, dans une réalité bien différente de celle d'une vache. Vous pouvez aller et venir entre votre existence de vache et la conscience de la chance que vous avez d'être humain. Et enfin, terminer en reposant dans la conscience ouverte. Est-ce que pendant la méditation guidée, il y a un truc qui vous a marqué? Je parle individuellement parce qu'en fait, c'est... il peut y avoir un aspect de la méditation qui peut nous marquer alors que l'autre, on passe à côté. Est-ce qu'il y en a un qui vous a plus marqué qu'un autre? Déjà, la durée de la vie d'une vache, c'est quoi? J'en sais rien, moi non plus, c'est pour ça que je vous demande. Combien?
Ça dépend si on l'amène à la bouche ou pas.
Ouais, ouais. Mais grosso modo, en moyenne, c'est quoi? C'est 10 ans, 15 ans?
10-15 ans.
Parce que je sais que moi, c'est ce qui m'a marqué. Moi, je me suis imaginé que c'était 10-15 ans. La vie d'une vache à peu près, hein, mais je pourrais pas... Mais rien que ça, comme... je trouve comme méditation... je trouvais ça intéressant qu'il le souligne, en fait. Nous, si on arrivait à 10 ans... Enfin, si notre vie s'arrêtait à 10 ans, mais à l'âge de 10 ans, le peu d'expérience qu'on a de la vie, on se fait une idée, mais qui est tellement limitée du fait simplement que bah, 10 ans, c'est rien. C'est très peu, quoi. Comparé à quelqu'un qui arrive à l'âge de 40 ans, 50 ans, déjà, c'est une autre vision de la vie, une autre expérience, beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde, etc. Et on évolue, quoi. Et en plus, on a les capacités d'évoluer. Moi, il y a ça qui m'a marqué, déjà. Et puis, beaucoup d'animaux hein, ont cette espérance de vie très, très limitée. Donc, peu de choses à faire. Puis, un autre truc qui m'a marqué, c'est quand il dit « En tant que vache, on ne peut pas choisir sa voie. » Et puis, juste avant, il dit « Ben voilà, peut-être que la vache... elle se retrouve, elle passe ses journées en plein, à griller en plein soleil, ou alors elle passe ses journées dans des box quoi. Rien que ça. Enfin, là l'idée c'est pas, on sait pas trop comment elle le vit la vache, comme le chat d'ailleurs. Mais pourquoi ces méditations elles sont proposées, c'est nous, est-ce qu'on aimerait avoir ce genre de vie, même en tant que chat, est-ce que nous on aimerait en fait passer nos vies à faire des allers-retours entre une gamelle où on nous sert tout le temps la même chose. Alors ça peut être bon, hein, le chat, ils aiment parfois leur pâté, mais c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas le choix, quoi. C'est de l'eau et puis la gamelle, matin, midi, soir, et puis le canapé. Parce que faut voir, ça aussi c'est quelque chose qui est développé dans les enseignements, on nous dit, il y a un des traits qui est très caractéristique chez la plupart des animaux, c'est le fait de se réfugier dans la léthargie. C'est-à-dire, dès qu'ils peuvent dormir, ils le font. C'est un refuge. Et pour les chats, c'est clair. Le chat, c'est 16 heures de sommeil par jour, en moyenne, sur 24. Donc en fait, dès qu'ils peuvent dormir, le font. Est-ce que ça nous plairait en fait de passer notre existence à dormir? Enfin, pourquoi vivre si c'est pour passer...
C'est comme si on était en prison, là.
Ouais, c'est ça, ouais.
On avait cette vie,
c'est
quoi.
Ça, ouais. Et puis à la limite, on nous donne de quoi jouer, une baballe. On nous enferme dans un appartement avec une balle pour qu'on puisse un peu se divertir, mais... Voilà, l'idée, c'est de voir, à côté de ça, nous, c'est quoi l'expérience d'être humain? La liberté qu'on a par rapport à ça. Alors, je dis, nous, en tant qu'humains, nés dans un pays occidental où on peut encore pratiquer n'importe quel loisir. On peut, si on veut se tourner vers la spiritualité, on peut pratiquer n'importe quelle tradition spirituelle, n'importe quelle voie spirituelle, n'importe quelle religion, n'importe quelle... Ben voilà, on a une liberté de fou, quoi.
On a le choix.
On a le choix. On peut manger ce qu'on veut. Aujourd'hui, on peut manger italien, japonais. C'est fou en termes de liberté, ce qu'on a. Mais après, l'idée de la précieuse existence humaine, elle est là aussi pour nous montrer que c'est pas acquis. Il faut en prendre conscience comme des conditions qui sont très précieuses, mais elles sont d'autant plus précieuses qu'elles ne sont pas acquises, parce que tout change tout le temps. Et donc, dans les préliminaires, il y a la notion d'impermanence. On va parler d'abord de la précieuse existence humaine, et puis ensuite on va parler d'impermanence. Nous faire observer que tout change tout le temps. Très facile de voir ça. Que tout change tout le temps, donc que rien n'est acquis. Et puis cette vie aussi, elle va se terminer. Donc avec la fin de cette vie, il y a aussi la fin des conditionnements, c'est-à-dire tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce dont on bénéficie, pas sûr qu'on l'aura après. L'idée de l'impermanence, c'est pas pour nous plomber. Parce qu'on, dans les textes sur l'impermanence, parfois c'est assez sévère, quoi. Il y a l'idée de, il y a pas de temps à perdre. On a des super conditions, il faut en faire quelque chose, parce que le temps passe, parce que ça peut changer, etc. Que tout ce qui est... je vais vous lire un texte qui plombe bien. Enfin, qui n'a pas pour lui de plomber, mais pour vous montrer à quel point les maîtres dans le dharma, ils vont insister sur l'impermanence, mais pour nous réveiller. Pas pour nous plomber, pour nous permettre de voir que si on cherche le bonheur, c'est le moment, on a tout pour vraiment le trouver le bonheur, mais si on perd notre temps à chercher dans la mauvaise direction, c'est du vrai gâchis. Donc c'est un texte de Tsongtsar Rinpoche, c'est un maître bhoutanais contemporain qui est assez provoque. Moi, je regarde beaucoup des vidéos de lui parce que je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Et je vous conseille, hein, si vous avez l'occasion, tapez Tsongtsar Rinpoche sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui est excellente. Très souvent, c'est traduit en français. C'est doublé en français, donc facile à comprendre. Et puis, il traite tous les sujets du dharma qu'on évoque. Et c'est un show. C'est vraiment, il a une façon de parler des choses. C'est tout... Tout en douceur, ça monte en puissance, et puis c'est des petites blagues, des petites, des petites provocations, et puis après il envoie le sérieux, et c'est très inspirant.
Comment t'écris ?
Alors ça s'écrit Tsongtsar, Tsongtsar, Rinpoche. Tu peux mettre Rinpoche, tu tombes sur ses vidéos, quoi. Mais je vous dis, hein, il y rentre dedans, quoi. C'est pas le plus cool. Mais c'est très chouette. Tsongtsar. Et ouais, vraiment, moi j'adore. Je suis vraiment très très fan, quoi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler du dharma à travers plein de faits de société. C'est-à-dire, ça va être des questions du genre... La dernière fois, j'ai regardé une vidéo sur le dharma dans le couple, par exemple, des trucs comme ça. Ça nous parle, on a envie de cliquer, quoi. Et en même temps, c'est à travers ça qu'il va amener des réflexions des enseignements très profonds sur le dharma. À travers tout. Un truc que voilà, tout le monde connaît, etc. Donc c'est assez sympa. Alors je vais vous lire le texte sur l'impermanence. Les préoccupations liées au bonheur, à la renommée et au confort d'un pratiquant diminuent à mesure que grandit sa compréhension de l'impermanence. Et une large part de cet apprentissage consiste à développer un sens aigu de l'urgence qu'il y a à pratiquer. Nous n'avons vraiment pas le temps. Aujourd'hui pourrait être le dernier jour de notre vie, et le dîner de ce soir, notre dernier dîner. Aucun de nous n'est sûr d'être encore en vie demain matin, et moi encore de vivre éternellement. Dans ce monde aussi dangereux que malsain, c'est déjà un exploit pour un quinquagénaire d'arriver à 80 ans. À 50 ans, plus de la moitié de notre vie est derrière nous, et les années passant, le temps semble s'accélérer. Les 30 ans dont nous croyons pouvoir disposer vont défiler en un clin d'œil, les 8 heures passées à dormir chaque nuit vont déjà nous prendre 10 ans, ajoutons-y 4 heures par jour pour regarder un film et prendre 3 repas, puis il faut bavarder avec les amis, vérifier les résultats du foot, faire le ménage, payer les factures, voir la famille et faire un peu d'exercice, ce qui compte pour environ 2 heures. Enfin, la plupart d'entre nous travaillons 7 à 8 heures par jour. Avec un peu de chance, les quinquagénaires que nous sommes disposent d'un peu moins de 2 heures par jour, c'est-à-dire approximativement 2 ans et demi à vivre. Sachant que la paranoïa, l'anxiété, le doute, etc. vont grignoter une bonne partie de ce temps, cela nous en laisse finalement très très peu pour pratiquer.
Comme ça...
Ça calme. Mais d'un côté, l'idée, c'est de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce qu'on arrive à se retrouver là-dedans? Parce que là, si on est honnête, il y a du vrai là-dedans. D'ailleurs, dans nos journées, on passe beaucoup de temps à courir après des choses qui finalement ne vont pas nous apporter de garantie d'être heureux. Et puis, il nous reste très peu de temps, en fait, pour nous poser les bonnes questions. Et par exemple, même si ça fait des années qu'on pratique le dharma, bah je pense qu'avec c'est ce qu'il dit au début du texte, il dit avec l'expérience, voilà, l'impermanence, on comprend, et donc du coup, on sait, on comprend intellectuellement et même plus profondément que, par exemple, le fait de courir après le confort systématiquement, c'est pas ça qui va nous apporter le bonheur. Bien sûr, le confort... c'est indispensable, c'est-à-dire il faut une base, mais courir après le fait d'amasser des biens, courir après l'approbation des gens, c'est sympa. Les gens nous approuvent, c'est sympa d'être aimé des gens, mais on voit bien que c'est pas là qu'on va trouver la garantie d'être heureux, parce que tout ça, ça change. À un moment donné, on a l'approbation, à un autre moment, on a la désapprobation. Courir après le plaisir, c'est pareil. Tant qu'on cherche le plaisir, on sait très bien qu'à un moment donné, ça a une limite. C'est qu'on va rencontrer de toute façon la satisfaction, quoi qu'on fasse. Même si on a les meilleures conditions, même si on est au top du samsara dans le monde humain, on va continuer à rencontrer la satisfaction. Que les biens, bah, c'est pareil, c'est pas une garantie. Dans la loi de l'impermanence, on dit tout ce qui est gagné finit par être perdu. Alors ça plombe un peu quand on entend ça, mais il y a quelque chose qui sonne vrai. D'ailleurs, on peut pas l'ignorer. Bah oui, gagner... c'est circonstanciel, c'est des circonstances, c'est des causes. Dès qu'on s'arrête, ou il suffit qu'il y ait un petit caillou dans la mare pour qu'on on finisse par tout perdre. Ça arrive tous les jours. Voilà, la renommée, l'anonymat, la popularité, la disgrâce, c'est des choses qui arrivent tout autour de nous, etc. Et puis, on le sait, et puis donc on apprend, en fait, à vivre en étant moins préoccupé de ces choses-là, c'est-à-dire on s'en occupe, jusqu'à un certain seuil où ça ne dépasse pas la préoccupation, c'est-à-dire où on y met toute notre énergie parce qu'on sait qu'on n'aura pas gain de cause. Et à partir de là, on commence à se poser les bonnes questions, à voir qu'on peut être heureux, même si les choses vont et viennent. On apprend que le bonheur, il ne dépend pas du fait que les choses arrivent ou n'arrivent pas, mais il dépend profondément de comment on vit les choses, comment on réagit aux choses. Donc là, on commence à travailler sur l'esprit. Et c'est tout le propos du dharma. Je vais vraiment passer du temps à voir que finalement, comment je réagis aux choses, comment j'apprends à être heureux. Plutôt que de chercher le bonheur dans quelque chose, comment j'apprends à être heureux, qui est ça, qui n'est pas ça. Et là, c'est la pratique. Mais ça demande beaucoup de rappel d'avoir cette prise de conscience, de travailler sur son esprit, parce qu'on est très vite entraîné par nos préoccupations. Et on a beau le savoir, là je m'adresse à... voilà, parce que je me sens très concerné par cette question, dans le sens où même si on commence à avoir un bon bagage, et puis on apprend à être heureux, et puis on y arrive, parce que bah, du coup, si plus on apprend à être heureux de la bonne manière, de manière correcte, de manière lucide, plus la vie devient plus simple, moins compliquée, et puis on arrive à traverser les situations difficiles plus facilement qu'avant. Mais en même temps, c'est très facile de laisser tomber la pratique, précisément parce que tout va bien. C'est-à-dire on sait ce qu'il faut faire, on sait comment le faire, et ça c'est énorme, et en même temps, très souvent on ne le fait pas. Alors je vais parler pour moi. Très souvent je ne le fais pas, je ne sais pas pour vous. Ça arrive qu'on sache très bien ce qu'il faut faire, et on ne le fait pas parce que bah, ça va, c'est cool. Et c'est là que ça peut poser beaucoup de problèmes, ça peut être très pernicieux, très sournois ça. C'est tellement facile aujourd'hui de se divertir, on a accès à tout. C'est tellement facile d'être distrait. Même pour nous, les jours de congé, ça peut devenir un problème. Déjà, le concept de jour de congé, c'est un truc qui n'existait pas il y a quelques générations. C'est un truc très nouveau, hein, l'idée de temps libre, jour de congé. C'est très propre, c'est assez récent. Et bah, ça peut devenir un problème en fait, d'avoir un jour de congé parce qu'on se demande comment on va l'occuper. Il y a des gens qui me disent l'angoisse du dimanche. L'angoisse du dimanche, c'est-à-dire s'ils se retrouvent seuls, eh ben, ils ne savent pas quoi faire de ce temps libre. Et ça peut générer de l'angoisse. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on remplit la journée de plein de trucs. Alors d'abord, je vais faire ci, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais terminer cette série, ensuite j'irai faire du sport, etc. Et à la limite, si on a cette liberté-là, il faut s'en réjouir, clairement. Mais là, le problème, ce n'est pas de cracher sur le divertissement. Je ne suis pas en train de cracher sur le divertissement. Mais par contre, en tant que pratiquant, il faut arriver à détecter quand est-ce que le divertissement devient une contrainte. C'est-à-dire parfois, en fait, ça engendre de la souffrance. Le fait d'avoir tout pour se divertir, ça ne nous garantit pas le bonheur. On voit bien que, justement, on cherche à se divertir et parfois on n'y arrive pas. Et on a beau remplir nos journées, bah, au lieu de trouver le bonheur, on rencontre l'insatisfaction, on rencontre dukkha dont on parle. Et ça, c'est intéressant. Point de vue du dharma. Dans le dharma, on ne dit pas divertissement pas bien. On dit divertissement, ça a une limite. Divertissement, quand on touche à cette limite, eh ben, on rencontre dukkha, on rencontre l'insatisfaction et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est un peu comme le gars qui zappe. On a tous fait cette expérience de zapper. Avant, on avait une chaîne, ensuite on en a eu deux, ensuite on en a eu trois, maintenant on en a 1000. Et donc, du coup, on a accès à une source infinie de divertissement et pourtant on ne trouve pas. Ben dans le dharma, on appelle ça l'ennui. L'ennui, c'est pas ça, on ne sait pas quoi faire, il n'y a rien à faire. C'est au contraire, on n'arrive pas à satisfaire. On peut avoir plein de choses sous la main, mais on ne trouve pas de quoi nous satisfaire. Ça ne peut pas nous combler. Et ben, dans le dharma, on dit ben justement, c'est une bonne expérience ça. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être comblé. La satisfaction, voilà, ça a ses limites. Et même, ça peut engendrer l'insatisfaction. On se voit, hein. Vous connaissez ce moment où on zappe, puis on ne trouve pas. Puis on cherche d'autres sources de divertissement, mais ça, on n'y arrive pas. Ça ne nous comble pas. Ça a ses limites. Même le sport, hein. Moi j'adore le sport. J'aime bien aller courir, j'aime bien faire du sport, et puis... je peux rentrer même dans un mode, j'ai besoin de faire du sport parce que ça me fait du bien, etc. Et puis le corps, l'esprit, nanana. Et à un moment donné, ce qui est une source de plaisir peut devenir une source de souffrance. Pourquoi ? Bah, c'est quand ça devient une contrainte. Faut que je fasse du sport. Ouais, mais j'ai ça à faire. Et puis on voit les priorités, et puis on voit qu'on va peut-être pas pouvoir sortir pendant, s'extraire pendant 2 heures parce qu'il y a toutes les priorités. Ouais, mais il faut que je le fasse. Et puis il y a toutes les contraintes derrière, enfiler le jogging alors qu'il fait froid, prendre la voiture, etc. Ben on le fait quand même. Vous voyez, et on rentre dans cette insatisfaction. Ben ça doit nous mettre la puce à l'oreille. D'ailleurs, en tant que pratique, elle est là la pratique. Et c'est le problème, c'est pas de faire du sport ou pas faire du sport, de se divertir ou pas. C'est dans le dharma, on cherche le bonheur. On cherche à être heureux. Donc quand il y a dukkha, bah, ça veut dire que, c'est-à-dire cette insatisfaction, ça veut dire que ça nous raconte quelque chose. On va servir de cette insatisfaction pour remettre en question notre fonctionnement. C'est pas le problème du divertissement. Le divertissement, c'est le divertissement. À un moment donné, il y a des conditions qui font que on peut être diverti, mais à un moment donné, il y a aussi des conditions qui font qu'on ne peut plus être diverti, quel que soit le divertissement. Et ça, c'est intéressant. Ça vient de notre esprit. Il y a une espèce de soif.
Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va y arriver. Bah oui, bien sûr. Mais je prépare le truc. Mais il faut toucher ce truc. Et ces réflexions-là, c'est pour ça qu'on les rappelle sans cesse comme des préliminaires, parce qu'après, on se les approprie, et puis on comprend de quoi il s'agit, c'est quoi la pratique. Et la pratique, à ce moment-là, c'est de voir que ça vient de nous. Il y a quelque chose qui est, on appelle la soif dans le dharma, la soif. En fait, on cherche à exister à travers quelque chose. Et tant qu'on est distrait, bah ça nous aide à ne pas faire face à ce vide. Vous voyez ce vide? Le vide de l'ennui, le vide de... il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui va se passer si je ne programme pas mon dimanche, quoi? Si je ne trouve plus de quoi me dire, qu'est-ce que je vais faire?
Rien.
Hein?
Rien.
Ah ben voilà.
Justement. Rien à faire, c'est un métier.
Justement, rien. Mais il faut le faire, hein. Enfin, je veux dire, c'est facile à dire. Quand on est dans la situation et qu'il dit, bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à arrêter, on n'a pas envie, hein. On continue quand même sur YouTube à cliquer sur le mur. Il n'y a pas une suggestion qui pourrait éventuellement... Bon, bah, je vais regarder sur Facebook alors, parce que je ne trouve rien. Hein. YouTube, Facebook, ça vous parle, hein? Bah, ouais, je suis pareil. Et de toute façon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, dans le dharma, on dit, bah, génial, enfin. Quelque part, c'est que les préliminaires, ils sont faits. Et on va pouvoir enfin observer l'esprit. D'ailleurs, aller dans cette expérience de vide. Parce que c'est là qu'elle est la clé. Dans le samsara, on essaye de l'éviter. On se distrait de ça. Dans le dharma, on va apprendre à l'assumer parce que c'est la clé du bonheur. Mais ça ne se présente pas comme ça. Hein. Ça se présente au contraire comme quelque chose d'inconfortable. Et ben dans le dharma, cet inconfort, il faut l'expérimenter, mais pleinement. Au lieu de chercher un substitut, on va parler de la méditation. Et premier niveau, bah en fait, allons-y quoi. Il n'y a plus rien qui vient me satisfaire. Eh ben, ne cherchons plus à remplir ce qui ne peut pas être rempli. Ne cherchons plus à combler ce qui ne peut pas être comblé. Donc on va observer ça. Et il n'y a rien à faire. Il suffit de s'asseoir. Et je ne dis même pas s'asseoir. À la limite, il suffit d'arrêter de chercher à une satisfaction. On arrête de chercher le bonheur. On apprend à être heureux. C'est ça la nuance. Dans la distraction, on cherche le bonheur quelque part, là où il n'y en a pas. Dans le dharma, ben, on apprend à être heureux. C'est là, il n'y a rien à faire, ben, allons-y. Et du coup, on va voir qu'en fait, très rapidement, il y a quelque chose qui s'apaise. Quand on accepte l'inconfort de ne pas être comblé, et on observe, ben, on n'est plus déjà en train de courir après quelque chose. Ben, y a une montagne de souffrance déjà qui va s'apaiser. Parce que cette montagne, elle est entretenue par le fait de courir après. Dès qu'on arrête, il y a quelque chose qui se désamorce, forcément. Et ce qui apparaît à la place, ben, c'est la présence. On pense qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a plein de choses dans la présence. Et la présence, ça suffit à soi-même. Si on arrête d'avoir des attentes par rapport à ce qu'on va expérimenter, ben, du coup, tout ce qui se prête devient intéressant. Dans le divertissement, on a toujours une attente. Je veux être diverti par ceci, par cela, mais on ne trouve pas. Là, l'idée, c'est de laisser tomber les attentes. Donc, on se pose. Et puis, on regarde. On regarde l'inconfort. On regarde ce qui se passe, mais sans chercher à bloquer, sans chercher une bonne idée, sans chercher à s'évader, sans chercher autre chose que ce qu'il y a là. Et puis, eh ben, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dans la présence. En tout cas... La présence nourrit. Dès qu'on n'est plus dans une attente, dès qu'on n'est plus en train de courir après quelque chose, il y a quelque chose qui se repose. On devient en vacances. Et ça devient très... Et les choses deviennent plus claires. Les choses deviennent plus paisibles. Mais c'est pas la paix au sens où il se passe rien. Parce que, parce que derrière la paix, les gens entendent quelque chose de très austère. La paix, il ne se passe plus rien. Ben c'est sûr, par rapport au divertissement, on est dans une démarche qui est différente. Mais pourquoi on parle de paix dans le dharma? de paix de la méditation, c'est que dès qu'on n'est plus en train de chercher quelque chose, l'esprit est dans un état de repos, mais n'empêche qu'il est clair. C'est-à-dire, il ne se passe pas rien, il se passe plein de choses. L'esprit continue à être conscient. Et s'il est paisible, s'il n'a pas besoin de courir après quelque chose pour se sentir bien, eh ben, ce que ça fait naître, c'est la félicité. En méditation, on utilise le mot félicité. Ça parle de joie, ça parle du fait d'être à l'aise, mais ce n'est pas la joie du plaisir. Ce n'est pas le même type de joie. C'est la joie qui fait qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de courir après quelque chose pour être bien. Ça se suffit à soi-même. On est paisible, on est conscient et on est présent. Et la présence, en fait, ça nourrit. Il n'y a plus besoin de chercher. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on expérimente très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire des années de méditation. Il suffit de pratiquer chiné quelques temps pour faire l'expérience que quand l'esprit est posé, avec la paix, ça s'accompagne de félicité, de joie. C'est inhérent à l'esprit. Ça ne dépend pas de quelque chose. C'est une qualité de l'esprit. Mais il faut l'expérimenter. C'est-à-dire, même si on le sait, même si on l'a goûté à travers la méditation, eh ben n'empêche que ouais, ça va, c'est bon, allez, je vais encore m'autoriser à... Quelque part, on dilapide l'énergie. On perd beaucoup de temps. Alors qu'on sait que... On sait ce qu'il faut faire. Après, l'idée, c'est pas de passer sa vie à rien faire. Hein.
J'allais dire, on va pas passer notre vie à méditer.
Bien sûr. Mais plus on va faire ça, moins on aura besoin de faire des choses superflues. C'est-à-dire, si nous, ce qu'on veut, c'est être heureux. Tout le monde veut être heureux. C'est ça qu'on... Si on sait le faire, bah, tout ce qui ne nous rend pas heureux, on va l'écarter. C'est-à-dire, quand on sent que, par exemple, le divertissement, on a une autre dose, eh ben, la pratique permet justement de connaître ce seuil, d'être très précis. Je suis diverti, pourquoi je vais aller chercher ailleurs ? Puisque je suis heureux, avec et sans. Donc ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de dire... Et la méditation nous apprend ça, mais plus on est expérimenté dans ça, moins il y a besoin de s'arrêter pour être en méditation. C'est-à-dire on peut être présent en faisant la cuisine, on peut être présent en discutant, on peut être présent en travaillant, on peut être présent quand on est en train de se divertir. Et là, ça devient effectivement très intéressant. Mais on peut aussi être totalement à l'ouest quand on parle, quand on cuisine, quand on se divertit. C'est ça la nuance. Si on ne sait pas faire la différence entre les deux, c'est-à-dire si pour nous, être en méditation pendant qu'on est en train de discuter et être distrait pendant qu'on est testé, et ben on ne voit pas la différence, ben c'est qu'il faut s'asseoir sur le coussin. Vous voyez ? Le coussin, l'assise, ça va nous permettre... De se familiariser avec la méditation. Et quand on sera familiarisé avec la méditation, il n'y a plus de différence entre le fait d'être sur le coussin et de ne pas être sur le coussin. Par contre, au niveau de la façon dont on vit les choses, ça n'a rien à voir. Et moi, c'est quelque chose que je trouve formidable, parce que aujourd'hui, je fais beaucoup de routes, par exemple. Il y a dans ma vie, envisager de faire une heure de route, deux heures de route, ça me demandait de me préparer psychologiquement et puis de préparer qu'est-ce que je vais faire pendant que je vais rouler, quelle émission je vais écouter, quel CD je vais écouter, quelle playlist je vais mettre, etc. Bon, j'ai toujours ça sous la main. Hein. J'ai toujours ma playlist pour voilà, quand je rentre, le trajet est long, etc. Mais en même temps, s'il n'y a pas ça, bah aujourd'hui, ça me fait absolument plus peur. Parce que, n'importe qui a un peu d'expérience en méditation sait que c'est de moins en moins un problème, le fait de ne pas avoir quelque chose à faire, de ne pas avoir quelque chose pour se distraire. Parce qu'on sait que si on apprend à être présent, bah, très rapidement, en fait, ça se suffit à soi-même. On peut être pleinement conscient de ce qui se passe et on est nourri de ce qui se passe. Il n'y a pas un sentiment de manquer ou de, comment dire, d'avoir besoin d'être diverti par autre chose. Parce que c'est nourrissant en soi. Parce que dans la présence, il se passe plein de choses. Il ne se passe rien, mais il se passe plein de choses. Et ça, quand on fait cette expérience en méditation, bah, c'est déjà un super cap Ça c'est la méditation de Chiné, hein. C'est la méditation de base à toutes les écoles du bouddhisme. On apprend à être non distrait, mais c'est plus que ça, on est plus que non distrait. Parce que par le fait d'être non distrait, on est à l'aise. C'est ça qui est super. Dès qu'on passe ce cap de découvrir le plaisir en méditation, il n'y a plus besoin de quelqu'un qui nous dit qu'il faudrait méditer 20 minutes par jour pour... non, on sait que ça va être bon, tout bénef. Donc si à la limite on peut s'aménager dans la journée un moment où on va être assis sur le coussin, ne serait-ce que pour retrouver cette présence-là, on ne va pas se faire prier, quoi. Et puis, mais après, on le sait, même expérimenté en méditation, on n'est pas à l'abri de courir après le divertissement. Et là, du coup, je trouve qu'on est, on devrait être plus responsable. Si on sait ce qu'il faut faire, on a d'autant plus de responsabilité, parce que on n'a pas d'excuses, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on voit très bien que là, on est en train de perdre du temps.
Quand on part en vacances, on en fait de plus en plus. Quand on part en vacances.
Eh ben.
Hein, si on n'a pas fait telle chose, il y a une frustration.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, même le concept de vacances, ça devient des plannings de ministres, etc. Tout à fait. Bon, après, hein, c'est des tempéraments, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop partir en vacances avec des gens qui vont tout planifier de A à Z. Je me retrouve pas là-dedans, parce que j'aime bien, occuper mes journées. Je suis pas non plus à rester à rien faire tout le temps. Mais voilà, il faut choisir ses compagnons de vacances. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce que vous avez envie de parler d'un truc? Enfin, de je sais pas, est-ce que ça vous avez envie de rebondir sur... qu'on vient de dire ou autre chose.
Moi, je viens vous poser une question.
Ouais.
Pour vous, y a-t-il une différence entre la notion de pleine conscience et celle que vous avez évoquée de conscience ouverte?
Non, là, on est dans la pleine conscience. C'est vraiment, justement, la pleine conscience est tirée directement de la méditation de Chiné. Donc, dans le dharma, on dit la méditation du calme mental. Et en fait, c'est la pleine conscience. Ouais. Cet aspect-là, cette méditation, c'est la pleine conscience. Il n'y a pas de différence. Donc après, une fois que les préliminaires... Je ne vais pas réciter tous les préliminaires. Déjà, l'impermanence, la précieuse condition humaine, c'est pas mal comme... préliminaire, et puis ensuite ça développe la nécessité de prendre refuge. Donc je rappelle le refuge. Dans le dharma, on considère que tout le monde finalement cherche un refuge. En tant que tous les êtres vont chercher dans leur existence des points de refuge. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être dans une relation, ça peut être le fait d'avoir une voiture, le fait d'avoir une maison, le fait d'avoir un travail. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature humaine, quoi. On cherche un refuge. Mais dans le dharma, on va aussi discerner qu'est-ce qui va être un véritable refuge, c'est-à-dire un refuge ultime, c'est-à-dire immunité totale contre la souffrance, et quels sont les refuges qui sont ordinaires. Refuge ordinaire, c'est-à-dire, c'est chouette, mais ça ne peut pas nous prémunir contre la souffrance. Et quand on médite sur l'impermanence, on voit que il y a les quatre marques de l'impermanence, et tout ce qui est acquis finit par se perdre, tout ce qui est réuni finit par être séparé, tout ce qui est construit finit par être détruit, et tout ce qui est né finit par mourir. En fait, c'est une façon de parler des points saillants de l'impermanence, parce que l'impermanence, c'est le fait que tout change tout le temps. Tout est en transition tout le temps. On peut regarder n'importe quoi, n'importe quel phénomène, que ce soit au niveau de l'univers, que ce soit au niveau de notre corps, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau des saisons. tout est transitoire, c'est-à-dire il n'y a pas un moment, il n'y a pas une fraction de seconde où les choses sont identiques. Là, d'instant en instant, même si ce n'est pas forcément perceptible à l'œil nu, il y a tout qui change. Et donc, du coup, bah, y a des, nous, ce qui nous permet de le voir, c'est qu'il y a des points saillants à la permanence. C'est que si on cherche à être comblé par le fait d'accumuler, d'acquérir, bah, on va se rendre compte qu'à un moment donné, on perd. Tout ce qui est gagné finit par se perdre. C'est des points saillants. Que tout ce qui est réuni finit par être séparé. À tous les niveaux. Même au niveau relationnel. À un moment donné, les liens qu'on construit avec nos proches, avec nos amis, etc., ben ne serait-ce qu'un jour, parce que tout le monde doit mourir un jour, on sera séparés. Et puis, même les amis d'aujourd'hui peuvent être aussi les ennemis de demain. Ça arrive. Les relations changent. Parfois, on s'éloigne. Et puis, parfois, en fait, les amis d'aujourd'hui deviennent les amis de demain, ou alors les centres d'intérêt divergent, etc. Mais en tout cas, rien ne change. Rien ne peut rester figé. Toutes les situations changent. Et ça, il faut en être sûr intellectuellement, mais il faut le voir. C'est-à-dire, vous pouvez être sûr que la situation dans laquelle nous sommes actuellement, si elle est favorable, ça va changer. Si elle n'est pas favorable, ça va changer. Pourquoi ? Parce que c'est déjà en train de changer. Impossible que ça reste stable. Impossible. Et du coup, toutes ces réflexions, ça nous amène à voir que finalement, qu'est-ce qui est un refuge ultime contre la souffrance ? Si le confort, ça change, si la sécurité, ça change, si on ne peut pas miser sur la sécurité, si on ne peut pas miser sur les relations, si on ne peut pas miser sur la renommée, si on ne peut pas miser sur la popularité, sur la richesse, sur le pouvoir. On a essayé avec tout, hein. Du coup, ça va nous permettre de voir, qu'est-ce qui peut être un refuge ultime ? Ça, c'est bien, mais ce n'est pas les refuges ultimes. Donc, du coup, ça va nous inviter à prendre refuge dans le Bouddha. Et le Bouddha, ce n'est pas le personnage. Le Bouddha, ce n'est pas le Bouddha Sakyamuni qui a enseigné il y a 2600 ans. Mais ça prête à confusion parce qu'on dit le Bouddha, le Bouddha. Mais non, c'est l'éveil, le Bouddha. Je trouve refuge dans l'éveil. D'ailleurs, le fait d'arrêter de me raconter des histoires. Déjà, si j'arrête de chercher le bonheur là où il n'y en a pas, ben, je vais arrêter de souffrir de mes illusions. Donc, moins je vais me raconter des histoires, plus je vais pouvoir être lucide. Et l'éveil, c'est ça. C'est la lucidité. Arrêter de s'illusionner. Parce que c'est ça la racine de la souffrance. On dit, hein, même un arhat qui s'est libéré de l'illusion, même s'il est, il est toujours, on a toujours un corps. Tant qu'on a un corps, bah, il y a des causes de souffrance. Forcément. On a un corps, il est fragile, donc on ressent le froid, la faim, le chaud, la souffrance. Mais quelqu'un qui s'est libéré de l'illusion, même s'il a des souffrances physiques, il n'a pas de souffrance mentale. Et si vous n'avez pas de souffrance mentale, ben la souffrance physique, ça ne pose pas de problème. C'est difficile à envisager, mais essayez d'y réfléchir intellectuellement. Que s'il n'y a pas de souffrance mentale, si on n'est pas perturbé mentalement par la souffrance physique, ça n'a rien à voir. On rajoute beaucoup de souffrance mentale par rapport à la maladie, par rapport au fait de souffrir, etc. Mais dans le dharma, donc, on dit, hein, la racine de la souffrance, c'est l'ignorance. C'est le fait de ne pas voir les choses clairement. Si on les voit les choses pour ce qu'elles sont, il n'y a plus de souffrance. Et donc, c'est le refuge dans le Bouddha. C'est j'aspire à l'éveil. Je comprends que je ne peux pas trouver de refuge dans le monde. Donc, j'aspire à trouver un refuge dans mon propre esprit. Dans le fait de me libérer de mon illusion. Et ce n'est même pas trouver l'éveil. C'est rien que le fait d'aspirer à l'éveil, c'est déjà un refuge. Si j'arrête de chercher le bonheur là où il n'y en a pas, c'est déjà un refuge. Et pour ça, bah, on prend refuge dans le dharma. La logique, je trouve refuge dans le Bouddha, je trouve refuge dans le dharma parce que c'est la méthode. Le Bouddha, il enseignait toutes les méthodes pour se désillusionner. Pour arrêter de se raconter l'histoire, c'est le dharma. Et ensuite, je prends refuge dans la sangha, bah, c'est tous ceux qui, aujourd'hui, ont réalisé ce que le Bouddha a réalisé, donc ils peuvent transmettre le dharma. Et puis ils peuvent le transmettre de façon pertinente parce qu'ils en font l'expérience. Donc, le refuge dans la sangha. Donc on va le réciter ensemble, le refuge. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc, ça se termine par la notion de bodhicitta, c'est-à-dire pourquoi on veut réaliser l'éveil, c'est pas seulement pour nous, c'est pour pouvoir libérer tous les êtres de la souffrance. Et à propos de ça, je vais vous parler d'un truc qui me parle pas mal en ce moment, puis après je m'arrêterai là-dessus. C'est parce que souvent on envisage, puissais-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres, ça paraît vachement, ambitieux et puis peut-être même orgueilleux, comment moi je pourrais libérer tous les êtres de la souffrance. Et en fait, il faut comprendre que quand on réalise l'éveil, c'est pas quelqu'un qui aide les autres, c'est ça aide les autres. Et parfois ça peut beaucoup nous aider, ça peut beaucoup nous inspirer, par exemple de rencontrer dans nos vies des gens qui sont vraiment heureux. Ça peut beaucoup nous... je pense qu'on en a tous rencontré des gens
c'est
qui pour
communicatif,
nous...
oui.
Comment ?
C'est communicatif.
Ouais. Parce qu'on sent aussi... Et on a besoin dans ce monde de gens, on a besoin de ces gens-là. Qui nous montrent qu'en fait, c'est pas des gens qui ont tout. Hein. C'est pas forcément des gens qui ont tout, c'est pas forcément des gens qui assurent sur tous les plans, c'est pas forcément des gens qui sont riches, c'est pas forcément des gens totalement en bonne santé. Et pourtant, on va rencontrer dans nos vies des gens qui vont nous montrer qu'en fait, on peut être heureux, et tout simplement. Et on a besoin, aujourd'hui, dans cette société où, au contraire, on utilise... Enfin, voilà, il faut avoir le dernier truc high-tech, faut être riche, faut être au top, faut être musclé, faut être ceci, faut être beau, faut être bien portant, bien...
Enfin,
etc., faut avoir... Et en fait, on n'a pas besoin. Enfin, on n'a pas besoin, mais on peut le comprendre, mais c'est chouette de rencontrer, d'avoir croisé dans nos vies des gens qui l'incarnent. On voit... Et quand on les rencontre, il n'y a pas besoin de mots, hein, ça parle tout de suite. Les gens qui, même dans leur simplicité, il faut qu'on voit, tout va bien, quoi. Tout va bien pour eux. Tout va bien pour eux. Et ils n'ont pas réuni tous les critères que la société nous demande de remplir pour être heureux. Ben, ça fait vachement de bien. Et si nous, on apprend à être heureux, si nous, on sait être heureux, il n'y a pas besoin de vouloir aider les gens. C'est ça aide les gens. Ça nous aide. Et l'effet secondaire, c'est que ça aide tout le monde. Si on sait être heureux, ben, ça se manifeste. Et ça se manifeste à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait, sans qu'il y ait besoin d'intention. Ben, l'état de Bouddha, ça parle de ça. Et c'est pas et on parle d'un bonheur, mais qui est qu'on peut même pas concevoir. C'est une paix totale, une compréhension totale qui s'accompagne d'une joie, mais qu'on ne peut absolument pas comparer avec la joie la plus haute qu'on a dans le samsara. Dans les textes, ils disent incomparable. On passe y a un fossé, quoi. Et si on arrive simplement à l'expérimenter, à le fait de se sentir bien, sans avoir à courir après quelque chose, sans avoir à rejeter quelque chose, mais simplement apprendre à être bien avec la situation telle qu'elle est, même si que l'économie aille bien, que l'économie aille mal, que le monde soit ce qu'il est, que les relations, c'est pas toujours... le monde, il sera toujours comme ça. Il a toujours été comme ça. Il est comme ça. Il sera toujours comme ça. C'est-à-dire... il change tout le temps, et puis on ne va pas attendre que tous les problèmes du monde soient réglés pour être heureux, parce que sinon on ne tiendra pas. Par contre, il y a des gens qui arrivent, et nous, C'est le but d'Arma, c'est de voir qu'on peut apprendre à être heureux maintenant. Même si il reste plein de trucs à régler, il y aura toujours des trucs à régler, et qu'on continue à régler des trucs, c'est-à-dire on ne se met pas en stand-by de ça, on est concerné par tout ce qui se passe, parce que ça fait partie de nous aussi. Que bah voilà, on peut apprendre à être heureux et que c'est ça qui aide. Voilà. Et quand on récite cette prière-là, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, c'est si on atteint le bonheur ultime, il ne faut pas s'inquiéter. Quoi. C'est, non, si on ne fait pas pour nous, il faut le faire pour tous les autres, ça profitera à tout le monde. Ça vous va qu'on s'arrête là ? On va faire la dédicace, qui est à la dernière page. Que le mérite accompli ici-même ébranle le tréfonds du samsara et que les êtres sortent de leur torpeur pour reconnaître la nature de l'esprit. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci.
Donc le mois prochain, ça, on retourne dans la.
Oui.
On retourne dans la
prochaine salle.
Oui.
Ok. L'impermanence. Il n'y a pas d'imprévu.
Ouais, ouais, bah, ouais. Si tout se passe bien. Ouais.
Merci.